Vous m'avez manqué. Ça fait tellement longtemps le dernier stream, combien de temps je ne sais plus, c'était... Ça remonte à... Je sais pas, au moins... 5 minutes? Facile! Mec, ça arrête de gueuler, Sam, il est 23h13, il y a des voisins, il y a des jeunes gens qui ont emménagé il y a pas longtemps en face, là. Le jeune couple avec le bébé, il est parti, là, et je pense qu'il est parti pour plus grand, là. Donc vas-y, vas-y, calme-toi, calme-toi. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui m'ont accompagné sur le stream Forza Horizon 5 de tout à l'heure. C'était super cool. Ça m'a bien détendu, ça m'a bien changé les idées. Et ça m'a donné envie de... Bah, je pense de continuer à jouer au jeu, peut-être même en solo, tranquille, hors stream, et découvrir le 6 qui sortira avec le Japon pour décor, pour théâtre. Dans quelques semaines. Voilà. Donc, la promesse ici qui a été faite au mois de juin à cette chaîne et cette communauté, c'est que la revue de presse, désormais, ce serait pas le plus souvent possible, ce serait tous les jours. Voilà. Il faudrait vraiment qu'il y ait un énorme truc pour que. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, depuis le mois de juin, des jours sans revue de presse. Je crois qu'on les compte sur. Même les jours d'accouchement, oui. Sur les doigts d'une main, et donc c'est la promesse du lundi au vendredi, et maintenant j'en fais même le samedi parfois, c'est de la revue de presse. Alors oui, il y a du question pour un champion en ce moment. Oui, je suis en tournage. Alors, on a maximum 2 semaines de tournage par an désormais, donc ça va pas trop nous impacter. Mais du coup, même quand il y a question pour un champion, c'est la revue de presse. Mais alors le matin, c'est impossible, puisque je pars à 7h30. 7h30 pour question pour un champion. Et donc, bah, c'est foutu. Du coup, pour la revue de presse. Donc, du coup, je vous la fais le soir. En plus, qu'on avait un petit stream gaming ce soir, bah, c'est vraiment tard. Voilà. Mais comme ça, la promesse, elle est tenue. Il y a de la revue de presse. On va démarrer sans plus attendre. Hein. On y va. On va peut-être faire une. On va peut-être essayer de court, tu vois, de faire un truc en 2 heures, ça peut exceptionnellement. Hein, vous en pensez quoi? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on commence par le sommaire, qu'on passe en revue un petit peu le sommaire de ce soir? Ah, parce que je vous ai prévu un sommaire, bien sûr. Parce que je vous ai prévu un sommaire, bien sûr. Voilà. Et en plus, je pense que cet horaire va peut-être nous produire quelque chose d'un peu différent, peut-être un peu plus chill, peut-être, en vue de presse du soir, là. Je suis bien coiffé. Hein. Quand je fais question pour un champion, je suis bien coiffé. Hein. On voudrait des nouvelles de Pio aussi. Ah, mais Pio, c'est un bonheur. Pio, c'est fou. J'avais un jeune couple de candidats aujourd'hui à question pour un champion. Le papa est venu jouer. Vraiment des jeunes. Hein, et avec un petit bébé, une petite fille avec un prénom magnifique. Et ils étaient venus avec le bébé. C'est une petite fille qui avait combien de semaines? 7, 8 semaines. Et elle était en loge. Et de façon adorable, il m'avait. La jeune maman avait tricoté un doudou magnifique, un petit animal. Un petit. Est-ce que c'est une petite souris? Je sais plus. Ah, non, 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 un tigre. Oh, je sais plus. Non, un renard. Waouh, la fatigue. Magnifique, fait main, magnifique que j'ai donné à Pio ce soir. Et tout ça pour vous dire que voilà, je suis entouré de bébés en ce moment et c'est je vis ma meilleure vie quoi. Pio, il est en pleine forme, il mange, il boit surtout du lait, il dort. Voilà, c'est sa vie. Et il a l'air très heureux, très apaisé. Il passe de bras en bras, des bras de sa maman, beaucoup aux bras de sa maman, aux bras des grands frères qui aident. Les bras de Malo, un peu les bras de Solal, le soir ou le mercredi, les bras de la grand-mère de Pio, Marie-Hélène, qui a la gentillesse d'être avec nous aussi. Voilà. Il est heureux. Et puis les bras de son papa aussi quand il rentre du boulot, entre deux trucs. Donc voilà, c'est juste magnifique. Donc voilà pour les nouvelles de Pio. Et puis maintenant, on va vous faire un petit sommaire. Combien de café ce soir? Pas trop, en fait, j'essaie de. C'est même pas un effort. À question pour un champion, normalement j'enchaîne les cafés. Je m'astreins de boire que 2 cafés par jour. Donc j'en ai bu un pour me réveiller le matin, un pendant la matinée, un l'après-midi. Je dis pas que j'ouvre pas une petite canette de Coca-Zéro pour faire passer tout ça. Un ce soir en rentrant à la maison, vers 19h des brouettes. Un ce soir ici au studio. Autant dire qu'on a quasi. Hein, oui, ça fait 2, si je compte bien. En tout, enfin, je suis pas très bon en calcul mental, mais on est autour de 2 cafés. À peu près, quoi. Non, mais en vrai, j'ai plutôt diminué, quoi. Je vous rappelle que dans mes grandes années, j'étais monté à 13 par jour, quand même. Donc là, on est quasiment arrêté. J'ai quasiment pas bu de café aujourd'hui, en vrai. Et là, j'en bois pas parce que si j'en bois maintenant, là, ça... Voilà. Sauf que normalement, je suis censé lire les journaux après pour demain, pour la revue de presse de demain. Parce que demain soir, il y aura une revue de presse encore. Ok? Pourquoi une revue de presse si tard? Ça me repose-toi, on attendra demain ou un autre soir au matin quand les enregistrements sont finis. Non, 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 la revue de presse, c'est tous les jours. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ok? Alors, si j'ai votre go, on commence par le sommaire, on y va. Et c'est parti. Bande de beaux gosses. Allez, c'est parti. Et merci d'être là. Je suis très heureux de tout ce que je vis ici, quoi. Go, c'est parti. Et là, on va dire bonjour aux amis du podcast, parce que du coup, c'est à partir de ce moment-là où les amis du podcast ont la revue de presse. Gestion du sommeil. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, car nous sommes, si je lis l'heure qui est en direct ici sur mon petit PC, 23h19. Ce n'est pas la matinée Étienne, c'est la soirée Étienne. Je salue tous ceux qui nous écoutent actuellement et nous regardent avec nos petits yeux en live sur Twitch. Je salue tous ceux qui vont nous écouter et nous regarder avec nos petits yeux en replay sur YouTube. Et je salue tous ceux qui vont nous écouter et pas nous regarder en podcast audio et qui ne verront pas les petits yeux, les Apple Podcasts, les Spotify, les Deezer. Merci beaucoup. Pardon pour cette revue de presse à une heure un peu étrange que vous aurez en replay, du coup en podcast demain matin, très tôt à partir de 4h. Donc, quel jour on est demain? Jeudi matin. Pourquoi? Parce que je suis en plein question pour un champion et du coup je ne peux pas le faire le matin. Or, je vous la fais du coup le soir. On va commencer par un sommaire comme d'habitude pour vous donner l'essentiel de l'actualité en quelques minutes pour que vous sachiez de quoi on parle. La une du Figaro de ce matin, hein. Il y a quelques heures, c'était Donald Trump cherche une porte de sortie dans cette guerre au Moyen-Orient, cette guerre en Iran. On a beaucoup parlé de ces derniers jours. C'est quand le terme? C'est quand la fin? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce que c'est un conflit qui va durer? Est-ce que c'est un conflit qui va être court, comme l'a promis en tout cas le président américain? Donc on a un dossier dans le Figaro que je trouve assez intéressant, qui fait assez le point sur tout ça. Trump évoque des négociations, on en parlait déjà hier, et cherche une sortie à sa guerre en Iran. Je trouve qu'il y a quelques infos en plus sur cette histoire de négociation que je trouve pas inintéressante. Et puis le Liban, hein, avec Israël qui alors s'empare du sud Liban pour éradiquer le Hezbollah. Moi, j'ai titré Israël qui annexe le sud Liban. On verra ce qui se passe actuellement au Liban, avec notamment des centaines de milliers, sinon 1 million de Libanais qui ont dû être déplacés. Pourquoi, comment, etc. D'ailleurs, vous voyez, l'humanité parle bien d'une annexion sur le modèle de Gaza. Tel Aviv qui décrète l'occupation du sud du Liban. Je voulais absolument vous donner des infos à ce propos. Alors, je ne rapporte pas tant de bonnes nouvelles que ça, vous savez, dans la revue de presse, même si de temps en temps j'essaie de trouver des lueurs d'espoir. Et là, j'ai un beau dossier, belle actu, plutôt positive, un dossier dans La Croix de ce mercredi 25 mars 2026. École dans le monde, ces pays qui progressent. Un rapport de l'UNESCO révèle une hausse réelle du taux de scolarisation dans le monde. Humaniser le monde, c'est le titre de l'édito de Lou Besmond de Senneville. Voilà. Alors, une scolarisation mondiale en net progrès, mais il y a des mais, on verra lesquels, il ne s'agit pas d'être totalement béat et naïf. Et puis, La Croix nous propose un coup de projecteur sur un pays en particulier pour illustrer cette scolarisation qui augmente globalement dans le monde. Ce pays, du coup de projecteur, c'est le Maroc, qui, à la faveur de réformes ces dernières années, a réussi à remplir les salles de classe. Voilà, c'est plutôt une actu positive. Alors, vous savez que la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, sur laquelle on s'est un petit peu penché ici, avant pas du tout, puis un jour on a été convoqué, donc on est allé, on a commencé à s'intéresser à ce qu'il faisait là-bas, a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'on en parlera encore longtemps. Et donc cette commission nationale, cette commission d'enquête même, c'est son nom officiel, de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, a invité Vincent Bolloré, un milliardaire d'un groupe de médias privés, hein, des médias dont on dit qu'ils sont des caisses de résonance pour les idées d'extrême droite, pour lui demander son avis sur l'audiovisuel public. Alors il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, mais c'est-à-dire, pourquoi sur la question du futur de l'audiovisuel public, des députés invitent un milliardaire, propriétaire d'un groupe de médias privés, notamment des chaînes, une chaîne d'infos dite d'opinion. Ok, alors on essaiera de comprendre. Il y a un article dans Libé. Je ne suis pas sûr que je vais faire un react de cette audition, quoique on verra dans les prochains jours si j'ai un petit peu de temps. Mais du coup, on lira ce papier de Libé qui résume un petit peu à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, la comédie de Vincent Bolloré. Et puis on finira sur quelque chose de positif du coup. Ça me fait deux actus positives dans l'actu, puisque en ce mercredi, on est encore mercredi pour 37 minutes, c'était un jour de sortie ciné, et j'ai vu plusieurs articles très positifs sur un film d'animation, qui s'appelle L'Odyssée de Céleste, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Charmant et touchant, ce film d'animation intergénérationnel est une jolie réflexion sur la force des liens à l'époque du temps et de l'espace. Je me suis dit... Merci Sugar. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller voir le trailer et de se pencher sur cet article. Peut-être que ça vous donnerait envie d'aller voir ce film. En tout cas, les critiques sont très très bonnes. Voilà pour cette petite revue de presse qui va nous occuper, je pense, allez, 1h30, 2h quoi. Vu l'heure, on va aller à l'essentiel. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que ça vous va? Bande de beaux gosses. Et puis à propos des auditions de la commission de l'Assemblée nationale, là en ce moment c'est compliqué avec Question pour un champion, mais peut-être que ce week-end, peut-être que vous me direz, bah voilà, parmi toutes les auditions de ces derniers jours, il y en a une qui a été particulièrement intéressante, instructive, sur ce qu'est l'audiovisuel public, sur ses forces, ses faiblesses, et on ira le react si on a le temps. Est-ce que c'est celle de Bolloré? Je ne sais pas. On verra, pour l'instant je n'ai pas de certitude là-dessus. Merci MMG. Merci Moulbit, merci Sugar. Merci La Chicha de Serge, merci Corgan pour ton soutien. Merci beaucoup. Rassure-moi, Sam, demain matin, tu dors? Non. En rentrant, là, je lis les journaux pour demain. Et demain matin, je me lève tôt et je vais à Question pour un champion. Est-ce que, si cette revue de presse passe minuit, est-ce que ça devient une matinée Étienne? Oui. Oui, oui. Ah, je vous adore. Oui, oui. À minuit, on transformera le titre de cette revue de presse de la soirée Étienne à la matinée Étienne. Oui, vous avez raison. Prévenez-moi quand il est minuit. Vous avez raison. Oui. Je n'ai pas la réponse à cette question, Kentopia, mais je l'ai vue.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Dans le café, essentiellement dans le café. Et dans le plaisir que j'ai ici. Ok, c'est parti. On y va pour le premier sujet. Donc, sur Trump, sur à quand la sortie de ce conflit? C'est la une du Figaro. C'était la une du Figaro ce mercredi matin. Je vous la montre. La une du Figaro, bien sûr. Guerre d'Iran, Donald Trump cherche une porte de sortie. Le président américain, qui multiplie les déclarations contradictoires, hein, on l'a vu ces derniers jours, affirme que des contacts ont été pris avec le régime iranien, indiquant qu'il cherche soit une issue à la guerre, c'est ce qu'espèrent les marchés, qui ont peut-être rebondi d'ailleurs aujourd'hui. J'ai vu que notamment la bourse de Paris était en hausse. On peut aller voir rapidement d'ailleurs un coup d'œil au marché financier. Il y a quoi? C'est les marchés asiatiques qui sont ouverts à ce moment-là. Samuel, tu connais une Diane? Oui, c'est un prénom que j'adore d'ailleurs, depuis toujours, pour des raisons mystérieuses. Oui, je connais des Dianes. Yves Liu, tu pensais à une Diane en particulier? Allons voir les places boursières. Ça a donné quoi? J'ai du CAC. Le CAC, il est où le CAC? Le Nikkei, il n'est pas ouvert encore. Le CAC est en ouverture aujourd'hui. CAC 40 plus 1,33%. Ouais, ça remonte un peu. Le FTSE à Londres 1,42, le DAX en Allemagne 1,41, le Dow Jones on est sur une hausse de 0,66%, le Nasdaq 0,77%, oui, ça remonte un petit peu effectivement. Voilà. C'était aussi, certains disent que les déclarations de Trump n'ont qu'une visée en fait, ce sont de rassurer les marchés financiers et de faire baisser peut-être le cours du baril de pétrole. Qu'écrivait le Figaro à ce propos? Le président américain cherche une issue à sa guerre en Iran. Au cours des dernières 48 heures, il a opéré l'une de ses volte-face coutumières en annonçant lundi des discussions fructueuses avec Téhéran, dont on a parlé en début de semaine. Donc, discussions fructueuses avec Téhéran, on se dit « ok, ok ». Prolongeant l'ultimatum qu'il avait lancé samedi aux Iraniens pour ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation. Oui, parce que il avait aussi, il y a quelques jours, lancé un ultimatum ultra court aux Iraniens, en leur disant, si vous n'assurez pas la réouverture du détroit d'Ormuz, à la circulation notamment des navires, des pétroliers, eh bien ça va taper très fort. Et finalement, l'ultimatum, il l'a repoussé, si je ne dis pas de bêtises, de 5 jours. Alors, Trump affirme qu'il y a des négociations qui se passent bien, fructueuses, et l'Iran, de son côté, a démenti le fait que des négociations soient en cours. Alors, qui faut-il croire? Mais l'annonce de Trump lui a valu un répit en enrayant momentanément les turbulences de la bourse, qu'on vient de voir à l'instant d'ailleurs. Cependant, cette annonce ne sonne pas encore la fin du conflit, tu m'étonnes. Si des contacts préliminaires ont bien été pris avec l'Iran, donc, voilà, les journalistes ont fait leur enquête à droite et à gauche, et a priori, il se confirmerait qu'effectivement des contacts ont été pris entre Washington et Téhéran. Donc si des contacts préliminaires ont bien été pris avec l'Iran, Trump semble avoir exagéré l'avancée des négociations. Merci Ravi Delpon Deligonès pour ce soutien. Merci Zuru 1 pour ce soutien que je n'avais pas vu aussi. Merci encore Corgan. Ça, c'est le petit chapeau du Figaro. Lisons peut-être ce papier qui va nous apprendre deux, trois petites choses sur ce Trump qui évoque des négociations et cherche une sortie à sa guerre en Iran. Trump cherche à présent une issue à la guerre qu'il a déclenchée en Iran avec son allié Israël, rappelons-le. Au cours des dernières 48 heures, le président américain a opéré l'une de ses volte-face coutumières en annonçant lundi des discussions fructueuses avec Téhéran, prolongeant l'ultimatum qu'il avait lancé samedi aux Iraniens pour ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation. C'est ce que je vous disais à l'instant. L'Iran a démenti que des négociations étaient en cours, mais l'annonce de Trump lui a valu un répit en enrayant momentanément les turbulences de la bourse. Dès la proclamation de ce report de 5 jours des frappes contre les centrales électriques iraniennes, délai qui coïncide avec la semaine d'ouverture des marchés, tiens donc, les indices boursiers sont remontés à Wall Street et le pétrole est repassé en dessous des 100 dollars. Mais ces annonces ne sont pas encore la fin du conflit. Si des contacts préliminaires ont bien été pris avec l'Iran, Trump semble avoir exagéré l'avancée des négociations. Selon le Wall Street Journal, le revirement du président américain faisait suite à des échanges entre les services de renseignement égyptiens et les gardiens de la révolution iranien, auxquels les Égyptiens auraient proposé de suspendre les hostilités pendant 5 jours afin d'établir les conditions pour ouvrir des négociations. Trump, lui, parle de négociations fructueuses. C'est pas tout à fait la même chose. D'autres contacts informels auraient eu lieu, impliquant le Qatar et Oman, mais aussi la France et le Royaume-Uni. D'après un magazine qui s'appelle The Atlantic et le site Axios, l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, qui est toujours Steve Witkoff, aurait proposé, par l'intermédiaire du Pakistan, un plan en 15 points, reprenant les propositions faites au gouvernement iranien l'an dernier. Une proposition aurait notamment été avancée d'une rencontre à Islamabad, donc Islamabad c'est au Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, entre des représentants iraniens et américains auxquels le vice-président américain, Jed Evans, aurait pu participer. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que l'Iran avait effectivement reçu ces derniers jours, c'est intéressant, des messages de certains États amis transmettant la demande américaine de négociation visant à mettre fin à la guerre. Trump, lui, a continué à présenter ses contacts comme la perspective d'une paix prochaine. Aujourd'hui, a-t-il déclaré, l'Iran a une nouvelle occasion de mettre fin à ses menaces envers l'Amérique et nos alliés. Nous espérons qu'ils la saisiront. Quoi qu'il en soit, l'Amérique et le monde entier seront bientôt bien beaucoup plus sûrs et la planète sera beaucoup plus sécurisée. On est dans les expressions habituelles de Trump. Ce sera mieux demain et ce sera grâce à moi. Trump, deux points, ouvre les guillemets. Nous avons donc maintenant de très bonnes discussions. On voit que les infos dont nous disposons ne disent pas tout à fait ça. C'est des premières prises de contact par intermédiaire. Lui parle de très bonnes discussions. Quelqu'un qui ne nous dit pas la vérité dans cette histoire. Et ça a commencé quand j'ai dit que nous n'allions pas, contrairement à ce que nous avions prévu, détruire certaines de leurs centrales électriques et que nous allions suspendre cette opération. C'est toujours grâce à lui en général. Espérons que nous n'aurons pas à le faire. Donc c'est la carotte et le bâton. Nous nous donnons 5 jours, puis nous verrons où ça nous mène. Et je dirais qu'à la fin de cette période, cela pourrait très bien aboutir à un très bon accord pour tout le monde. Aussi bon que si nous étions allés jusqu'au bout et avions littéralement anéanti ces lieux. Bon, c'est du Trump tout craché. Ce qui, si nous n'avons pas à le faire, serait une bonne chose, pas une mauvaise chose. N'essayez pas forcément de comprendre. Hein ? Parfois, c'est un peu confus. Dans son discours, Trump a présenté la guerre contre l'Iran comme si le conflit était déjà terminé. Et justifie les perturbations économiques qu'il a engendrées. Nous, alors, là, il faut s'accrocher. Hein. Nous avions le Dow Jones à 50 000 points, mais j'ai appelé Pete Hegseth. J'ai appelé le général Kane. Alors, Pete Hegseth, je crois que c'est son secrétaire d'État à la Défense, si je dis pas de bêtises. Et le général Kane, et je leur ai dit, nous avons un problème au Moyen-Orient. Il y a un pays appelé l'Iran qui depuis 47 ans n'est qu'un semeur de terreur et qui est sur le point de se doter de l'arme nucléaire. Nous pouvons continuer à faire passer le Dow Jones à 55 000 points, puis à 60 000. Ou bien nous pouvons faire une pause et aller au Moyen-Orient pour éliminer un gros problème. Voilà. Alors, ça n'est pas un enfant qui vous raconte le truc. Hein. C'est le président américain. Et Pete, c'est toujours Trump qui raconte. Je crois que tu as été le premier à prendre la parole. Donc il se tourne vers le monsieur. Et tu as dit, allons-y. Parce qu'on ne peut pas laisser avoir l'arme nucléaire. On a ajouté Trump en prenant à témoin son secrétaire à la défense. Reviens petite page, partageant de façon inhabituelle la responsabilité de l'une de ses décisions. Le président américain a ensuite visité Graceland, la résidence d'Elvis Presley. Bon. La méthode, et ça on la connaît, consistant à faire suivre des menaces maximales par des déclarations apaisantes, a régulièrement été présentée par Trump et son entourage comme une technique de négociation. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre commerciale, par exemple. Le président et ses partisans vantent son imprévisibilité qui lui permettrait de conserver ses options et sa capacité de réaction, tout en maintenant l'adversaire dans l'incertitude. Le président y a régulièrement recours en matière économique, c'est ce que je vous disais, et avait notamment déployé cette tactique avec ses proclamations de droits de douane l'an dernier, revenant sur plusieurs d'entre elles en fonction des réactions. On promet le maximum, le plus dur, les actions les plus fortes, les plus violentes, et puis on revient en arrière après avoir obtenu peu ou prou ce qu'on voulait. Ces reculades du président américain lui ont valu à Wall Street le surnom que vous connaissez de Taco, Trump always chicken out. Trump se défile toujours, se dégonfle toujours. Mais, écrit le Figaro, la technique marche moins en temps de guerre. On n'est pas sur un conflit commercial. Elle, estime le journal, contribue à diminuer la crédibilité de ses déclarations, qu'elles soient agressives ou pacifiques. En gros, aujourd'hui, c'est quand Trump, en matière diplomatique, parle, tu ne sais jamais finalement s'il va le faire, pas le faire, s'il va avancer, reculer, s'il ne va pas changer d'avis demain ou dans 5 minutes. Bon. Elle renforce l'impression d'improvisation dans une guerre menée au jour le jour plutôt qu'en fonction d'un plan établi, et elle sape aussi la confiance minimale nécessaire à la négociation pour en trouver une issue. Les guerres ont aussi tendance à acquérir une dynamique propre, les rendant plus faciles à déclencher qu'à arrêter. La question qu'on peut se poser à ce niveau de l'article, c'est est-ce que cette guerre du Moyen-Orient déclenchée par les États-Unis et Israël n'ont pas échappé aux deux assaillants? Elles impliquent aussi un ennemi, l'Iran, dont les calculs entrent en ligne de compte. Si les frappes réciproques contre les installations énergétiques de la semaine dernière n'ont pas repris, l'Iran a lancé mardi une nouvelle série de missiles et de drones contre plusieurs États du Golfe Persique et contre Israël, montrant que ses capacités de représailles ne sont pas totalement disparues. Salut Xielo, merci. Des missiles se sont abattus sur Tel Aviv et les défenses aériennes saoudiennes auraient intercepté plus de 20 drones mardi matin, tandis que les Émirats arabes auraient été attaqués par 5 missiles balistiques et 17 drones. Le Koweït, le Bahreïn auraient aussi été la cible d'attaque. Vous voyez, les frappes contre l'Iran, les frappes depuis l'Iran se poursuivent, pardon. Mais surtout, l'Iran a découvert le pouvoir de pression qu'il détient en contrôlant la navigation dans le détroit d'Ormuz. Le détroit sera ouvert très bientôt si ça marche, avait répondu Trump lundi à une journaliste, ajoutant qu'il sera contrôlé conjointement. Par qui ? Ce contrôle du détroit d'Ormuz, l'avait demandé la journaliste. Peut-être par moi, a répondu Trump. Moi et l'ayatollah, quel qu'il soit. Bon. Voilà où on en est. Je vous lis et on enchaîne. Alors, c'est des petites infos tous les jours, certaines qu'on avait déjà, certaines, il y a des précisions aussi, mais je pense que sur un sujet aussi important, je pense que le Moyen-Orient, l'Iran, il faut en parler tous les jours. Salut, Guabajac, Opal. Est-ce que le Trump du lundi est le même que le Trump du mardi? Lui seul le sait. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, quoi. Je fais une petite pause par rapport à Trump et l'Iran. Tout à l'heure, quand on a lancé le stream de gaming juste avant, vous avez été plusieurs à me parler d'autres actualités qui venaient de tomber. Alors, ça n'a rien à voir, mais certains m'ont parlé de la mort de Loana. Voilà. Et d'une part, et il y avait une autre actu dont vous m'avez parlé et je l'ai oublié. Est-ce que vous pouvez le décès de Loana, oui, qui semble avoir été confirmé. Et je crois que vous m'avez parlé d'une autre actu aussi. Et je me suis dit peut-être qu'on pourrait aller voir tout à l'heure ces deux actus. Vous vous rappelez de l'autre actualité? Oui, là, oui, c'est ça, la garde à vue de Gims. Ouais. Okay. Donc on ira voir ces deux actus, parce que la question que je me pose toujours, c'est une info dans le chat est-elle une info confirmée? Est-ce qu'on peut aller la vérifier? Donc si, tout à l'heure, on prendra un petit peu de temps, si vous voulez, peut-être après le. Peut-être après justement le dossier sur l'école dans le monde, peut-être qu'on pourra aller voir cette histoire d'arrestation de. Il a été arrêté, c'est ça? De Gims, sur fond de blanchiment en bande organisée et la mort de Loana. Ok? On ira voir ces deux actions, on les rajoutera peut-être à notre sommaire. Donc voilà pour les dernières nouvelles sur l'Iran et le Moyen-Orient, évidemment, on en reparlera demain soir également. Je voulais absolument vous parler du Liban aussi. Avant de parler de ces dernières actus, avec un article dans le Figaro, un article dans l'Humanité aussi. Israël s'empare du sud Liban pour éradiquer le Hezbollah. Parce qu'il faut absolument comprendre ce qui se passe au Liban actuellement. Affirmant s'inspirer de son expérience revendiquée à Gaza. Tsahal, donc Tsahal, c'est l'armée israélienne, a déjà déplacé 1 million de Libanais, 1 million de Libanais, hommes, femmes, enfants, pour occuper le sud du pays et créer une large zone tampon. C'est pas la première fois dans l'histoire que Israël envahit le sud du Liban. Israël va s'emparer du sud Liban. Depuis une dizaine de jours, l'armée israélienne menait des opérations terrestres dans le sud du pays, vous le saviez, pour traquer le Hezbollah, hein, qui est un proxy, qui est un soutien de l'Iran. Elle compte désormais s'y installer durablement. Mardi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que les forces israéliennes manœuvraient à l'intérieur du territoire libanais pour s'emparer d'une ligne de défense avancée jusqu'au fleuve Litani, une trentaine de kilomètres de la frontière. Le ministre a annoncé que les forces israéliennes y resteraient tant que la sécurité d'Israël serait menacée. L'histoire se répète, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est pas la première fois. Les Israéliens ont déjà occupé la zone entre 82 et 2000, sans pour autant réussir à éradiquer le groupe chiite pro-iranien. Puis après, il y avait eu le retrait de l'armée israélienne du sud Liban. Mais le gouvernement actuel voit dans la période une occasion unique pour Israël de se débarrasser de ses ennemis, de cet axe chiite sous contrôle de l'Iran et dont le Hezbollah était justement l'une des pièces maîtresses. Le gouvernement israélien affirme même ouvertement s'inspirer de sa guerre à Gaza, qu'il revendique pour mettre au pas le Hezbollah. Je cite le ministère de la Défense israélien, nous avons ordonné une accélération de la destruction des maisons libanaises conformément au modèle de Beit Hanoun et de Rafah à Gaza. Depuis 23 jours, l'aviation israélienne pilonne non seulement le sud du Liban, bastion du Hezbollah, mais aussi la capitale Beyrouth. Elle traque les cadres du groupe, détruit ses centres de commandement, les infrastructures civiles qui lui sont utiles, outre 5 ponts sur la rivière Litani, méthodiquement bombardés pour briser la logistique du groupe armé, les avions israéliens ont frappé les hôpitaux, les habitations civiles. Depuis une dizaine de jours, Tsahal conduisait des opérations militaires au sol. On ne peut pas nettoyer la zone du Hezbollah par de simples frappes aériennes, il faut nécessairement intervenir au sol, analyse une ancienne responsable au Conseil de sécurité nationale israélien. Alors, officiellement, Israël compte établir une ligne de défense avancée. Voilà. Israël explique le Figaro qui entend en fait s'arroger une large zone tampon afin de sécuriser son septentrion, dont les habitants vivent depuis 30 ans à portée de tir des missiles du Hezbollah. Septentrion, c'est le nord, quoi, d'Israël, si je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est ça? En 2023, l'attaque surprise du 7 octobre par le Hamas dans le kibboutz jouxtant Gaza avait conduit à l'évacuation des villages situés à moins de 5 km de la frontière. Traumatisme pour les habitants, pour les Libanais, vécu comme un aveu de faiblesse pour le gouvernement, qui n'entend pas recommencer. Israélien, bien sûr. Je parle des Israéliens. Désormais, la zone tampon doit être en territoire ennemi, explique un officier israélien. C'est ça, septentrional, c'est au nord. Hein. Plusieurs sources évoquent donc une possible intensification des opérations israéliennes dans les jours à venir. On va suivre ce qui va se passer, de quelle manière hein, Israël va prendre contrôle du sud Liban, avec quelles éventuelles victimes, quelles éventuelles frappes. Déjà, ce que l'on sait, c'est que les frappes israéliennes ont déplacé près d'1 million de Libanais, dont 350 000 enfants. Indique l'UNICEF, situation qui semble devoir durer. Les centaines de milliers de résidents du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord ne retourneront pas au sud de Litanie tant que la sécurité des habitants du nord d'Israël ne sera pas assurée, a prévenu Israël. Pour la frange la plus radicale du gouvernement Netanyahou, cette guerre n'est pas seulement l'occasion de chambouler les rapports de force moyen-orientaux, mais c'est aussi l'occasion de redessiner les frontières d'Israël. Lundi, le ministre israélien des Finances a appelé à une annexion du sud Liban et à sa colonisation. C'est ce qui se passe notamment en Cisjordanie. La nouvelle frontière israélienne doit être le Litanie, a martelé le ministre. Ce que constate le Figaro, c'est qu'Israël n'a pas l'intention de quitter le chemin de la guerre, même si Trump, nous on en parlait il y a quelques minutes, dans un revirement diplomatique devenu habituel, a annoncé lundi des négociations à un moratoire de 5 jours sur les frappes américaines en Iran. Il y a plusieurs articles depuis quelques jours qui nous disent que même si Trump, lui, décidait de suspendre, par exemple, ses frappes, son offensive, Israël semble bien déterminé à aller jusqu'au bout contre l'Iran pour supprimer définitivement cette menace que représente l'Iran pour son existence. Déclaration de Netanyahou, 2 points. Nous sommes en train de broyer jusqu'au bout le programme de missiles et le programme nucléaire iranien. Nous continuerons à porter de rudes coups au Hezbollah et ça n'est pas fini. Une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'en pense l'opinion publique. Alors, c'est une israélienne, c'est toujours une réponse difficile à apporter parce que pas toujours facile de mesurer l'opinion d'un pays. Mais ce que nous dit le Figaro, c'est qu'en Israël, malgré la fatigue grandissante de la population, la majorité de l'opinion publique et de la classe politique soutient aujourd'hui cette guerre contre l'Iran. Depuis les premiers jours et même dans les semaines qui l'ont précédé, Netanyahou n'a jamais caché sa préférence pour la voie des armes. Pour le Premier ministre, cette guerre est l'occasion, voilà, je vous le disais, d'en finir avec la menace iranienne qu'il présente comme existentielle, comme menaçant l'existence même d'Israël. Bougez pas, j'enlève un bot. Ouais, c'est fait. L'aboutissement de 30 années d'une vie politique marquée par la conviction profonde que l'Iran et le réseau d'alliés qu'il s'est tissé depuis 47 ans est le principal ennemi de l'État hébreu. Si la guerre prenait fin aujourd'hui, malgré les résultats obtenus, on ne pourrait pas parler de succès, juge un ancien officier de renseignement israélien. Nous avons aujourd'hui le même régime, à Téhéran, comprenez, certes affaibli, mais enhardi. Vu d'Israël, les négociations annoncées par Trump restent floues. Bon, ça revient sur les négos supposés lancés par Trump. Depuis le début de la guerre, les responsables israéliens savent que leur capacité à continuer leur campagne de frappe en Iran dépend du bon vouloir américain. Tout reste dans les mains de Donald Trump, glisse au Figaro un responsable politique. Donc bémol apporté par le Figaro à ce que je disais à l'instant. D'après les articles qu'on lit depuis quelques jours, on a l'impression que quoi que décident les États-Unis, y compris de suspendre leur frappe, par exemple, Israël continuera. Là, la fin de l'article nous dit que les Israéliens ont besoin des Américains pour continuer leur frappe en Iran. Et sur le même sujet, on va lire un dossier de l'Humanité, mais je vous lis d'abord. MMG dit, il a besoin, Netanyahou, de continuer les attaques pour garder le pouvoir en vue des élections. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Netanyahou, l'une des façons les plus efficaces qu'il a de rester au pouvoir, de gagner, par exemple, les législatives qui approchent en Israël, effectivement, c'est de maintenir son état, son pays en état de guerre, et de créer une mobilisation du pays au nom de la sécurité, du salut public du pays autour de sa personne, effectivement. Alors lisons le dossier de l'Humanité justement qui parle clairement d'une annexion du sud Liban sur le modèle de Gaza, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Ouais, lisons ce papier, je pense qu'on a à peu près les infos du Figaro, mais c'est intéressant d'avoir un deuxième regard. Tel Aviv décrète l'occupation du sud du Liban. Le ministre de la Défense a donc annoncé mardi que l'armée israélienne manœuvrait pour créer une ligne de défense avancée. L'annexion du territoire s'étendrait de la frontière au fleuve Litani, une nouvelle violation du droit international qui n'a pas ému les dirigeants occidentaux. Alors, annexion ou colonisation, dit Jus, bah, annexion si c'est une action militaire quoi, du territoire, et colonisation si après ils installent des colons, des Israéliens, sur ces terres, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas. Pardon pour les petites sautes de papier. Au Liban du Sud, le gouvernement israélien entre dans une nouvelle phase. La coalition d'extrême droite a donc confirmé mardi le déclenchement de l'annexion d'une vaste zone allant de la frontière israélienne au fleuve Litani. Ce sont les mêmes informations que le Figaro. Dans cette surenchère militaire, rappelle quand même l'humanité en totale violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, Israël Katz, donc le ministre israélien de la Défense, a confirmé l'occupation d'un territoire souverain. Eh oui. Les centaines de milliers de résidents du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord ne retourneront pas au sud de Litani tant que la sécurité des habitants du nord d'Israël ne sera pas assurée. L'UMA qui nous rappelle que c'est une violation ici du droit international. L'UMA qui nous rappelle aussi que cette stratégie de la zone tampon qui justifie aujourd'hui, selon Israël, l'annexion du sud Liban avait déjà été mise en œuvre dans la bande de Gaza lors de la guerre génocidaire après le 7 octobre 2023. Et dans le passé, l'armée israélienne l'avait également utilisée en 82 pour annexer le Liban du Sud sur 10 à 20 km de profondeur avant d'être contraint au retrait en 2000 face aux attaques du Hezbollah. Cette opération ne surprend guère, nous dit l'Humanité. Depuis près d'une semaine, état-major et gouvernement israélien ont multiplié les ordres d'évacuation, les bombardements sur les districts de Tir, Saïda, Jezin, Nabatié, Asbaya, Bint Jbeil. Ils ont clairement visé et détruit de nombreuses infrastructures indispensables aux populations civiles, écoles, centres de soins, réseaux d'eau, ponts. Tout à l'heure, le Figaro nous parlait d'hôpitaux aussi. Ces attaques sont reconnues comme des crimes de guerre. L'armée israélienne a recours aux mêmes méthodes qu'à Gaza, c'est ce que nous disait aussi le Figaro. Pointe un certain nombre d'ONG comme Human Rights Watch. Une membre d'Oxfam International déclare « Dans le sud du Liban, les autorités israéliennes ont détruit et rasé plusieurs villages afin d'empêcher le retour des populations et favoriser une occupation de ces territoires. Nous assistons aux mêmes ordres de déplacement forcé qu'à Gaza », explique l'ONG Oxfam International. C'est intéressant de voir des journaux aussi différents que le Figaro et l'Humanité, d'accord. Les deux journaux disent exactement la même chose. Merci Léa, merci Camboué. Selon un bilan encore provisoire, l'offensive israélienne aurait tué près de 1300 civils et fait plus d'un million de déplacés. L'Humanité cite encore le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Le gouvernement est dans la ligne du modèle que nous avons appliqué à Rafah et Beit Hanoun à Gaza. Le lendemain, le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, a défendu le principe d'une annexion, estimant que la frontière nord d'Israël devait être étendue jusqu'au fleuve Litani. Merci Caillou Bleu. Des discours criminels, écrit l'UMA, préalable à une stratégie militaire illégale, contre lesquels pourtant aucune action diplomatique n'a été engagée par la communauté internationale. Quelqu'un me disait à l'instant, c'est j'arrive pas, mais que fait l'ONU? Le gouvernement français s'est contenté d'exhorter les autorités israéliennes à s'abstenir de telles opérations terrestres. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui a également condamné les propos de Smotrich, une atteinte majeure à l'intégrité territoriale du Liban. Voilà. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui empêcher Israël de faire, par exemple, ce qu'ils font là au sud du Liban Je n'ai pas la réponse à cette question, pour le coup. Que Trump lâche Netanyahou. Oui, Doudou, dis donc, tu n'as pas tort. Bonjour Samuel, comment se sont passés les tournages de questions pour un champion il y a quelques jours maintenant? Alors c'est pas il y a quelques jours, c'est pile poil en ce moment, c'est toute la journée là, non-stop, j'en sors et j'y retourne demain matin. Un changement de gouvernement? Oui, Olipran, moi aussi, c'est ce que j'évoquais ces derniers mois quand je vous parlais régulièrement, je vous disais, les habitués du stream le savent, il y a une chose qui peut changer la donne, ce sont les prochaines élections générales législatives en Israël qui peuvent peut-être chasser le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou du pouvoir et mettre une autre majorité aux commandes. Mais dans ce contexte d'état de guerre, je vous le disais, c'est l'idéal pour que Netanyahou puisse se maintenir. Voilà, bon, on en reparle demain. C'est pas un sujet qu'on va lâcher, bien sûr. Alors, avant de. On le fera après, mais effectivement, dans les dernières actes, tout à l'heure, quand j'ai lancé un petit stream gaming, certains viewers, de façon très sympathique, sont venus me prévenir des dernières informations qui tombaient. La mort de Loana, voilà, donc, il semble confirmer. Une femme qui a eu, hein, qui a eu, qui a vécu beaucoup d'épreuves, si vous connaissez un peu son histoire, et l'arrestation, si j'ai bien compris, de Gims. Et je voudrais avoir plus d'infos là-dessus également. Mais d'abord, je voudrais partager avec vous ce dossier de la Croix, pour une fois que j'ai a priori une bonne nouvelle dans l'actualité. Je ne voulais pas passer à côté. C'était la une de la Croix de ce mercredi. Hein, sur la scolarisation, oui, Maître Gims, Gims, ouais. La scolarisation des enfants qui progressent dans le monde. École dans le monde, c'est pays qui progressent. Un rapport de l'UNESCO révèle une hausse réelle du taux de scolarisation. Alors, pour une fois que j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous dans l'actualité, je voulais pas la rater. Lisons l'éditorial peut-être de Lou Besmond-Senneville pour commencer. En ces temps de tensions internationales et de débats post-élections municipales, lorsque de bonnes nouvelles surviennent, il faut savoir s'en réjouir. Un rapport publié par l'UNESCO fait état d'une augmentation sensible du nombre d'enfants scolarisés dans le monde. Enfin, une bonne nouvelle. Depuis 25 ans, la scolarisation a crû de 30% dans le monde, dans l'enseignement primaire et secondaire. Même si, avertit l'UNESCO, cette progression connaît un fort ralentissement depuis 2015. Voilà, comme dit Florent, on prend ce qu'on peut. Moi, je prends, hein. Dans notre pays où l'instruction est largement répandue depuis le 19e siècle, en France, nous serions tentés de considérer ces chiffres comme une évidence, ce serait oublier qu'en France, le droit à l'école fut une conquête progressive. La scolarisation fut rendue obligatoire de 6 à 13 ans à partir de 1882, âge porté à 14 ans en 1936, puis à 16 ans en 1959. Je pense à mon papa, par exemple, qui lui était né en 1937. Et qui a arrêté l'école très tôt pour aider sa maman, qui était toute seule pour tenir la petite ferme familiale en Bretagne. Et donc là, je vois par exemple que l'école n'a été obligatoire jusqu'à 16 ans qu'en 1959. Donc effectivement, lui, le fait qu'il ait pu arrêter l'école comme ça très très tôt, c'était OK. Et c'était assez courant d'ailleurs. Et c'est ce que me racontait mon papa. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui allaient à l'école, mais notamment dans les milieux paysans et peut-être même ouvriers, pour le coup que je connais moins, c'était fréquent que les enfants arrêtent l'école assez tôt parce que voilà, il fallait aider quoi, il fallait travailler. Donc là, ils sont intéressants ces chiffres. Donc la Croix nous rappelle que bah, chez nous, c'est pas si vieux que ça finalement. L'opportunité de se construire comme une personne délivrée de toutes les pressions du monde des adultes. De fait, l'accès à l'éducation doit devenir un droit fondamental dans tous les pays. Ça semble une évidence en France, mais, hein. Dans trop de régions du monde, l'enfant est encore vu, perçu comme un soldat potentiel ou une force économique en puissance. Or, il n'est pas cela. Il est déjà une personne dotée d'une dignité inaliénable. C'est pourquoi il revient à chaque État de le former. Alors il y a un dossier ici, qui souligne ses progrès, avec quelques bémols, puisque cette progression de la scolarisation des enfants dans le monde, elle se poursuit, mais elle ralentit. Voilà, bah, en Niel, c'est ça, c'est cette génération-là. Pareil pour moi, mon papa est né en 37, il a dû commencer à travailler très jeune pour aider la famille et payer l'école de son frère. Exactement. Pour le coup, il y avait une vraie inégalité sociale, puisqu'il y avait des milieux sociaux où on allait plus longtemps à l'école, quoi. Alors, lisons cette bonne nouvelle. Dans son rapport mondial sur l'éducation, c'est la source, publiée mercredi, l'UNESCO témoigne d'une réalité contrastée à travers la planète. Si depuis 25 ans, des progrès massifs ont été réalisés en matière de scolarisation, ceux-ci sont en fort ralentissement depuis 2015. À travers le monde, un enfant sur six n'est pas scolarisé actuellement, ce qui est gigantesque. Ce chiffre en augmentation depuis 2015, sous l'effet conjugué de la croissance démographique, des crises et des restrictions budgétaires, illustre une tendance préoccupante selon le directeur général de l'UNESCO, Khaled El Enani, qui s'exprimait en marge de la publication de ce rapport mondial sur l'éducation mercredi. Premier volet d'un compte à rebours vers 2030, ce document se penche sur les progrès qui ont été réalisés en matière d'accès et d'équité dans l'éducation à travers le monde et donne en revanche un éclairage en demi-teinte sur ce sujet, les avancées notables en la matière côtoyant des réalités contrastées selon les régions du monde. Comprenez, il y a encore des endroits dans le monde où c'est une catastrophe, la question de la scolarisation des enfants. Du côté des bonnes nouvelles, depuis l'an 2000, il y en a quand même quelques-unes, la scolarisation a augmenté de 30% dans l'enseignement primaire et secondaire, certains pays enregistrant des progrès massifs en la matière. On va parler notamment du Maroc, vous allez voir, il y a un coup de projecteur dans la croix sur le Maroc. C'est le cas aussi à Madagascar, au Togo, où les taux de non-scolarisation à l'école primaire ont été réduits de 80% en 25 ans. La même proportion est observée au Maroc, au Vietnam, pour les ados. Sur la même période, la Côte d'Ivoire a réduit de moitié ses taux de non-scolarisation en primaire et secondaire. C'est quand même de très bonnes nouvelles. En primaire, le taux de scolarisation de l'Éthiopie est passé de 18% en 1974 à 84% en 2024. Et l'expansion de l'accès à l'enseignement supérieur en Chine a connu une croissance sans précédent, passant de 7% en 1999 à plus de 60% en 2024. Autre bonne nouvelle, les progrès en matière d'égalité et d'accès à l'éducation entre filles et garçons sont notables dans l'enseignement primaire et secondaire. C'est le cas par exemple au Népal, où les filles ont rapidement rattrapé, voire dépassé, dans certains domaines, les garçons grâce à des réformes soutenues en faveur de l'égalité des genres. Parce que les filles étaient encore plus touchées, vous le saviez, que les garçons par cette non-scolarisation. Quelqu'un m'indique qu'on vient de passer minuit. Effectivement, donc très officiellement, ce n'est plus la soirée Étienne. C'est la matinée Étienne. Donc je corrige. Vous avez raison. Bon matin à tous, bon réveil à tous. Je change le titre. Un petit café? Non, non, parce que je vais dormir après. Je vais essayer de dormir un petit peu avant Question pour un champion. C'est la nuit, Étienne. Non, non, c'est le matin, là. C'est minuit. C'est le matin, là. Alors, la matinée. Étienne. Voilà. Maintenant, faut vous réveiller maintenant, hein? Voilà. Et on corrige aussi ici à l'écran. Voilà, la matinée Étienne. Et il est minuit une, c'est bien le matin. Ah, j'espère que vous avez tous bien dormi. Maintenant, on peut continuer. Donc, des progrès, notamment en matière de scolarisation des filles. Des avancées, c'est pas tout, importantes sont aussi constatées dans le domaine de l'inclusion scolaire des enfants handicapés. Le nombre de pays dotés de lois sur l'éducation inclusive est ainsi passé de 1 à 24%. Mais, hélas, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, temporise Manos Antonis, directeur du rapport mondial sur l'éducation, les progrès ne peuvent pas être uniformes, le contexte local se répercutant nécessairement sur les objectifs nationaux en la matière. De fait, note ce même rapport, un fort ralentissement est observé en matière de scolarisation depuis 2015, la multiplication des conflits armés ayant entraîné nombre de fermetures d'écoles. J'y pensais, je me dis, tiens, peut-être que ça nous parle des pays en guerre. Aujourd'hui, plus d'un enfant sur six vit dans une zone touchée par un conflit, voilà, notamment ce qui ralentit la scolarisation. réalité particulièrement prégnante au Moyen-Orient, où des millions d'enfants sont exposés à un risque accru de décrochage. Si on pense aux enfants palestiniens, vous imaginez bien que ces derniers temps, c'était assez compliqué d'aller à l'école. Autre raison avancée par l'UNESCO, la croissance démographique que connaît notamment l'Afrique subsaharienne, qui entraîne un fort ralentissement des progrès en matière de scolarisation. L'intérêt du rapport se trouve, nous dit Lacroix, notamment dans son analyse des mécanismes qui permettent localement d'améliorer l'accès à l'école. Ainsi, le fait d'avoir rendu l'instruction obligatoire, et pas seulement gratuite dans 14 pays africains, a permis de gagner une année de scolarité supplémentaire pour les filles comme pour les garçons. Des gains plus importants sont encore observés lorsque des lois contre le travail des enfants sont adoptées. Les politiques incluant des facteurs qui ne sont pas directement éducatifs ont aussi un impact. Dans le Cambodge, les progrès en électrification étaient associés à près d'une année de scolarité supplémentaire. Dans les pays à faible revenu ou intermédiaire, quand il existe des programmes d'alimentation scolaire, pour 100 dollars qui y sont investis, une demi-année d'apprentissage supplémentaire est observée. Et donc, il y a les politiques en matière d'éducation, mais les politiques en matière d'équipement, d'électrification, d'alimentation, viennent aussi soutenir la scolarisation des enfants. C'est ce que montre ce programme. Pour une fois que j'ai quelques bonnes nouvelles à partager avec vous, j'y tenais. Et alors, il y a un zoom dans la croix sur le Maroc, hein, bon, qui est un pays que je connais bien, parce que j'ai une partie de ma famille qui y vit, donc j'y vais de temps en temps. Voilà. C'est vrai que on voit beaucoup d'enfants dans les villages, notamment en fin de journée, qui rentrent par grappe, comme ça, par groupe, c'est à pied ensemble de l'école. Souvent des petits uniformes d'ailleurs, enfin, toujours un peu les mêmes. Voilà. Très bon niveau scolaire au Maroc, mais élitiste, il me semble. Alors, il y a de très bons résultats, effectivement, pour l'enseignement supérieur marocain, quoi. Effectivement. Je ne sais pas ce que va nous dire le dossier là-dessus, parce que moi, j'ai juste comme ça des images d'un pays jeune. Le peuple marocain, enfin, la moyenne d'âge est assez jeune. Et tu vois beaucoup d'enfants, tu vois beaucoup de jeunes, et effectivement, tu vois notamment beaucoup d'enfants le matin qui vont à l'école, le soir qui en reviennent. Mais qu'est-ce que nous dit la Croix ? Ça va être sûrement beaucoup plus intéressant que les poncifs que je suis en train d'enchaîner là. Qu'est-ce que nous dit le dossier ? J'ai grandi dans le monde rural, dans ma classe de l'école primaire d'Imoulas, nous étions 24 et certains enfants de mon village, surtout les filles, n'étaient pas du tout scolarisés. Se souvient par exemple Hamid Aguinan. À l'époque, nous n'étions que 3 à avoir eu la chance de pouvoir continuer au collège. Aujourd'hui, ce passé semble loin au Maroc, où le taux de non-scolarisation des jeunes en âge d'aller au collège a chuté de 85% entre 2000 et 2023, ce qui est rapide, selon le rapport de l'UNESCO dont on parlait. Pourtant, Hamid Aguinan, qui est aujourd'hui professeur de langue amazigh dans une école d'Agadir, n'est pas très âgé, il vient tout juste de fêter ses 37 ans. Les efforts déployés ont été remarquables, reconnaît l'enseignant, qui n'oublie pas pour autant les problèmes qui persistent au sein de l'éducation nationale marocaine. En moins de 25 ans, le pays s'est hissé au niveau des pays à revenus intermédiaires supérieurs en matière de taux de scolarisation. Pour parvenir à de tels résultats, parce que pour le coup, il y a vraiment eu quelque chose, le Maroc a mis en place une série de politiques publiques innovantes guidées par des objectifs clairs. En 1999, la Charte nationale pour l'éducation et la formation constitue un acte fondateur et place l'éducation comme une priorité politique majeure du pays. Les efforts se sont d'abord concentrés sur la construction d'écoles, de nouveaux établissements. Le nombre de collèges publics a plus que doublé, celui des lycées a triplé. Si nous n'étions que 3 à pouvoir aller au collège, c'est parce qu'il fallait être admis à l'internat de la plus grande ville de ma région. Mais aujourd'hui, Imoulas, c'est une localité, a son propre collège et les élèves peuvent s'y rendre en bus scolaire. Le deuxième axe prioritaire, outre de construire des écoles, a été la promotion de la politique d'égalité des genres. Le Maroc a notamment orienté les bourses d'internat vers les jeunes filles afin de réduire leur déscolarisation. Enfin, donc construction d'école, lutte contre les inégalités de genre, et enfin le gouvernement a tablé sur une politique d'aide financière directe aux ménages, aux familles. Non, c'est exceptionnel, il y a pile la revue de presse le soir, c'est parce que je suis en question pour un champion en ce moment. Je ne peux pas faire le matin. Un programme qui s'appelle le programme Tessir, dans les territoires où le taux de pauvreté dépasse les 30%, prévoit ainsi des versements réguliers aux familles à condition qu'elles maintiennent leurs enfants à l'école. En 2025, vous aviez plus de 3 millions d'élèves marocains qui bénéficiaient de ce programme. Des initiatives qui ont contribué à une baisse spectaculaire du taux de non-scolarisation au lycée, qui a chuté de 63% un peu plus de 20 ans. Cet exemple, estime Lacroix, montre que les financements nationaux organisés, intégrés dans un système cohérent et durable, sont beaucoup plus efficaces que des aides dispersées ou ponctuelles, comme des dons matériels isolés. Je lis la fin de l'article, qui fait 2 pages. Alors, qui parle aussi de l'économie marocaine, et qui dit, pardon, hop, et qui dit ceci, « Ce succès ne peut se comprendre qu'à la lumière des bouleversements économiques et sociétaux que le Maroc, le royaume chérifien, comme on dit parfois, a connu ces dernières années. Le pays affiche l'une des croissances économiques les plus soutenues au monde, 4% de moyenne sur les 25 dernières années, avec des prévisions très favorables sur les années à venir, des performances économiques qui ont permis au royaume de multiplier par 3 son budget consacré à l'éducation. » Plus frappante encore est la transition démographique rapide du pays, qui a contribué indirectement à l'amélioration du taux de scolarisation. Alors moi, je vous disais que j'avais l'impression, quand je promenais au Maroc, que je voyais un peuple très jeune, beaucoup d'enfants. Mais c'est en train de changer. Alors c'est très intéressant. Le nombre moyen d'enfants par femme au Maroc, ce qu'on appelle le taux de fécondité, est passé de 7,2 en 1962 à seulement 1,97 en 2024. Donc on n'est pas très très loin du taux de fécondité qu'on peut avoir en France, par exemple. Faisant du Maroc l'un des rares pays d'Afrique à présenter un taux de fécondité désormais inférieur au seuil de remplacement des générations. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y avait des choses positives, Lacroix nous dit, attention, il y a aussi des choses qui restent à améliorer. Enseignants et responsables politiques soulignent l'ampleur des défis auxquels le système éducatif du royaume doit encore faire face. Le décrochage scolaire, par exemple. 300 000 élèves quittent chaque année le système scolaire, dont la moitié au collège. Du coup, le ministère de l'Éducation a ouvert notamment des écoles de la deuxième chance. 238 centres à travers le pays, avec pour objectif de les réintégrer dans le système éducatif. Salut Soyland, comment vas-tu? L'autre source d'inquiétude est le niveau même des élèves scolarisés. Selon ce même document, seuls 30% des élèves du public maîtrisent le programme à la fin du primaire et à peine 10% à la fin du collège. Les lacunes s'accumulent au point que certains élèves ne parviennent plus à suivre. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, quelqu'un qui connaît peut-être le système scolaire marocain me disait à un moment, si tu n'arrives pas à mettre ton enfant dans le privé, c'est un peu compliqué. Je vous lis. Bon, c'est Thierry qui nous disait ça tout à l'heure, Thierry de Bonnet. Au Maroc, si tu vas pas en cours privé pour les études supérieures, c'est compliqué, nous dis-tu. Alors moi, j'avoue que je n'ai pas d'expertise en la matière. Je m'en veux d'ailleurs, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas échangé avec des Marocains sur leur système éducatif. Alors Marchalon me dit, j'ai pas eu cette sensation du primaire à la fac, tout en public pour moi. Choupichon me dit que sa collègue marocaine lui a dit exactement la même chose. Okay. Voilà pour ce zoom de la croix sur la scolarisation. C'est quand même une bonne nouvelle. Des enfants qui progressent dans le monde, c'est une tendance lourde. On va passer dans un instant au passage de Monsieur Vincent Bolloré devant la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Pas bien compris pourquoi une commission sur l'audiovisuel public recevait un milliardaire qui possédait des médias privés. Mais bon, on va essayer de comprendre cette démarche. Mais avant, j'aimerais qu'on se penche ensemble sur les dernières informations que vous m'avez rapportées tout à l'heure, Voilà. Information de dernière minute, dira-t-on sur les chaînes d'info. Voilà. Avec l'arrestation de Gims, ex-maître Gims, et peut-être la mort de Loana aussi. Voilà. D'abord, je vais aller vérifier cette information, parce que j'étais sur autre chose tout à l'heure. Alors, on va essayer de trouver une source. Bon, je peux vous montrer comment on travaille. Voilà, actualité. Voilà, effectivement, on va essayer de trouver des articles. Un papier de Libération il y a 4 heures. Un papier de France Info il y a 4 heures également. Un papier dans Ouest France, dans Nice Matin. Voilà. Dans Le Monde aussi. Voilà. On peut peut-être commencer par l'article du Monde. Voilà. Du coup, je vais rajouter cette triste information au sommaire. Voilà. Ajouter un sujet. Que j'intitule La mort de Loana. Je rajoute, j'ai vu qu'il y avait un article dans Le Monde et dans Libération, on peut aller voir ça. Et je valide ici. Voilà. Et on va le mettre, on va le remonter un peu devant Monsieur Bolloré. Voilà. Allons sur cette info. Allons sur cette info. Donc je voyais à l'instant qu'il y avait un article dans Le Monde. Loana, révélée par Loft Story, a écrit Le Monde un peu après 20 heures. Donc, j'ai l'impression que l'info est tombée il y a 4-5 heures. C'était au début de ce stream d'ailleurs que certains m'en ont parlé. J'aime bien d'ailleurs quand vous venez me dire comme ça les informations qui tombent. Loana, révélée par Loft Story, peut-être que les plus jeunes d'entre vous peut-être ne voient pas qui elle est, mais Le Monde va nous le raconter, est retrouvée morte à son domicile à l'âge de 48 ans. Elle avait une vie très compliquée, vous savez. Après le succès de l'émission de télé-réalité, Loana Petrucciani, donc c'est son patronyme, a tenté plusieurs reconversions, chanteuse, puis mannequin, styliste, avant d'alterner des disparitions inquiétantes et des retours tonitruants. Loana Petrucciani, plus connue sous son seul prénom de Loana, révélé par Loft Story, a été retrouvée morte à son domicile à l'âge de 48 ans, a appris l'agence France Presse mercredi auprès du procureur de la République de Nice. Confirmant une information de Paris Match. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, c'est Paris Match qui a été le premier à sortir l'info, et tu as raison. L'information est confirmée par Le Monde. Son corps a été retrouvé en fin de journée, donc mercredi. C'était ce mercredi. Annonçant le magistrat qu'une enquête avait été ouverte en recherche des causes de la mort, parce que quelques personnes me demandaient, mais quelles sont les causes de la mort ? Il a précisé que le décès remontait à plusieurs jours. Donc le corps a été retrouvé plusieurs jours après sa mort. Qui vient induire l'idée qu'elle devait être seule, quoi. Loana Petrucciani se fait connaître en 2001 en remportant l'émission de télévision réalité Loft Story, l'adaptation française de l'émission Big Brother. Rappelons que c'était, si je ne dis pas de bêtises, la première émission de télé-réalité en France. Hein, pendant lesquelles les anonymes vivent ensemble sans se connaître pendant plusieurs semaines sous l'œil des caméras de M6, 24h sur 24, c'était totalement révolutionnaire à l'époque. Le succès du Loft fut immédiat et phénoménal, ça avait provoqué beaucoup de débats d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui encore, l'émission est considérée comme culte et même inspirée une série pour la plateforme de streaming d'Amazon Prime en 2024. Figure emblématique de la première saison de Loft Story, Loana restera à jamais une personnalité qui a profondément marqué toute une génération de téléspectateurs, a réagi M6 dans un communiqué. Alors on a un peu un retour sur la vie de Loana. Née en août 77 à Cannes, Loana est effectivement devenue une figure emblématique du programme très rapidement lorsque ses ébats avec un autre candidat, Jean-Édouard Lipa, furent filmés dans une piscine. L'indignation est alors à son comble et l'émission accusée de tous les maux. À l'époque, c'était nouveau tout ça. Mais Loana devient en quelques instants une vedette du petit écran. Lorsque Loana remporte l'émission, elle descend les Champs-Élysées à la manière des joueurs de football, s'ensuit la tournée des plateaux de télévision, la couverture du magazine Elle, un cliché glamour du photographe des stars Mondino, la publication de son autobiographie quelques mois plus tard, un livre, sa biographie, qui s'appelait Elle m'appelait Miette, qui est un succès de librairie, qui lève le voile sur son enfance difficile et revient sur son drame personnel quand, à 19 ans, elle a confié sa petite fille Mindy aux services sociaux. En parallèle, elle tente différentes reconversions, mannequin pour Jean-Paul Gaultier, styliste pour une liste de vêtements qui portait son nom, animatrice télé sur les chaînes du câble, mais le conte de fées tourne rapidement au cauchemar. Loana quitte peu à peu le monde du show business et entame un long déclin personnel qui la voit régulièrement faire la une de la rubrique Faits divers entre périodes de disparition inquiétante et retour tonitruant. En 2006, elle a participé à une autre émission de télé-réalité, Je suis une célébrité, sortez-moi de là. En 2009, elle est découverte inanimée à son domicile après avoir été agressée par deux hommes, affirme-t-elle. Quelques années plus tard, elle fait une tentative de suicide qui la plonge dans le coma. Son entourage révèle alors qu'elle a déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. En mai 2011, elle fait un timide retour en participant à la saison 2 de l'émission Les Anges de la télé-réalité, mais ses soucis de santé l'empêchent d'être la marraine de la saison 4 du programme un an plus tard. À partir de 2020, sa vie n'est plus qu'une succession d'hospitalisations, d'épisodes psychiatriques, de violences subies. Elle partage notamment sur les réseaux sociaux des photos de son corps couvert d'hématomes, accusant son ex-compagnon de l'avoir frappé. Elle est internée en clinique psychiatrique après une crise de démence dans les rues de Paris. D'autres séjours en hôpital suivront pour des overdoses ou des traumatismes liés à ses malaises. En 2024, sur le plateau de Touche pas à mon poste, une Loana visiblement traumatisée, lourdement médicamentée, peinant à s'exprimer, raconte un viol extrêmement violent qu'elle a récemment subi et qui l'a laissée en état de choc. La vérité, c'est qu'on est tous un peu responsables, parce qu'on a tous regardé, parce qu'on a tous commenté, parce qu'on a tous à un moment détourné les yeux quand ça devenait trop dur. Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien, et nous, on n'a pas su être à la hauteur de ce qu'elle nous a donné, a de son côté réagi sur Instagram Benjamin Castaldi, qui était le présentateur de cette émission Loft Story. Alors, j'ai vu en scrollant vite fait qu'il y avait aussi un article de Libé. Voilà, il y a un titre de France Info également. C'est Paris Match. C'est Paris Match qui révèle, a priori, l'information. Hein. Alors, Libération, c'est comme ça, je vous le dis souvent, c'est un journal qui a un talent. Attends, on ne voit pas très bien, comme ça on va voir mieux. Qui a un talent particulier pour parler des morts. Voilà. Les meilleures biographies, les meilleurs hommages, les plus belles photos à ceux qui sont partis, c'est dans Libération. Voilà, c'est un talent. Voilà. Et là, là, quand vous comparez avec la photo de Paris Match qu'on vient de voir, par exemple, à l'instant, qui rend pas forcément hommage à Loana, enfin, quoi que c'est une belle photo, mais regardez celle de Libération. Bon, Libé, c'est... Voilà. Lisons ce papier. Au-delà de la photo, qui est une très belle photo, mort de Loana, ange de la télé-réalité. Est-ce que j'ai accès? Oui, comme je suis connecté. Alors, je ne vais pas vous relire tout, je vais lire les passages peut-être qu'on n'a pas dans le papier du Monde qu'on vient de lire. Voilà. Donc, Libération confirme qu'une enquête a été ouverte sur les raisons de sa mort, a priori qui ne sont pas connues, en tout cas pas officielles aujourd'hui. Le terrible épilogue de 15 années d'un désespoir public, écrit Libé, raconté dans les médias par Loana elle-même, alcool, drogue, violence et plusieurs tentatives de suicide. Oui, c'est peu ou prou les informations que Le Monde nous donnait déjà, quoi. Oui, pour le coup, ce sont les mêmes informations. Ouais. Voilà. Alors, quelqu'un ça nous disait tout à l'heure, mais moi, je ne comprends pas qu'on s'y intéresse, je peux retrouver le message. Hein. Je vais vous le lire. Voilà, c'était Wikerzo. On s'en bat un peu, non? Hein. Je ne vois pas l'intérêt à part expliquer qu'elle a eu une vie horrible. En fait... Ce qui est intéressant, c'est que la télé-réalité, la télévision déjà, parce que la télé-réalité est un programme de télévision, a fait de cette jeune femme quelque chose. Et que la question est posée de savoir si, dans la vie qu'elle a eue après, dans la vie ô combien difficile qu'elle a eue après, on a parlé de violence, on a parlé de drogue, on a parlé de plein de choses, la question est de savoir si la télé, le divertissement, où elle a été exposée, ont une part de responsabilité ou pas dans ce qui lui est arrivé. En la portant du jour au lendemain au pinacle, en l'exposant à une hyper-célébrité, instantanément, du jour au lendemain. Voilà. Il y a aussi une Libération parle aussi d'argent. Par exemple, elle nous explique qu'elle sort du loft à l'époque avec 1,5 million de francs. Donc en fait, on est bien au-delà de la détresse, du destin. Triste d'une personne, c'est aussi une question de peut-être sur les conséquences que une hypermédiatisation brutale, incontrôlée, non contrôlée, voilà. Parce que derrière il y a des intérêts d'audience économique, eh bien un peu. La question est de savoir s'il y a à s'interroger sur une part de responsabilité ou pas, quoi. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on en parle. Je vous lis. Oui, on a fini la partie Forza, oui. Non, c'est bien une matinée Étienne à minuit, oui. On est un peu décalé en ce moment, à cause de questions pour un champion. Voilà. En tout cas, voilà. Pour ses papiers. Là, c'est l'article de France Info. Mais on n'a pas plus d'informations. Ouais. Et alors, dans les informations que vous m'avez rapportées tout à l'heure aussi en début de stream, qui ne peuvent pas être dans les journaux que j'ai lus ce matin, et pour cause, il y a, si j'ai bien compris, alors je vais tout de suite vérifier, l'arrestation, c'est ça, de Gims. C'est bien une arrestation? Article dans Le Monde, là. Effectivement. De France Info aussi. Le Parisien, Le Figaro. Voilà. Créons une information. Donc c'est une arrestation. C'est une arrestation à son retour. Donc il était arrêté à son arrivée à Paris. On va regarder tout ça. Voilà. What the fuck, il a fait quoi? Bon, on va lire ça, on va lire ça. Je vous crée une ligne de plus. Voilà. Priorité à l'actu, comme on dit. L'arrestation de Kims. J'ai vu qu'il y avait un article dans Le Monde, dans Le Figaro, notamment. Mettons ça déjà pour l'instant. Et je vous montre cette actu ici et allons voir de quoi il retourne. Voilà. Et le sommaire devient de plus en plus gros. Tant mieux. Comme ça, s'il arrive un accident, ça cachera ce qu'il faut. Toujours intéressant de voir comment un article est construit. Là, par exemple, on a une mention qui est très importante, ici, en haut à gauche, par Le Figaro avec AFP. Ça veut dire que le Figaro n'a pas forcément été en mesure d'enquêter lui-même, hein, mais nous cite sa source, c'est-à-dire une dépêche de l'agence France Presse. Le rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire des juges d'instruction suivie par le parquet national anti-criminalité organisée. Lisons l'article du Figaro. Le roi de la chanson francophone rattrapé par la justice, Gims a été interpellé mercredi, donc il y a quelques heures, à sa descente d'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire de juges d'instruction suivie par le parquet national anti-criminalité organisée. Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, n'a pas souhaité réagir dans les médias. Gims a été arrêté par le service national des douanes judiciaires à la sortie de l'avion, à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. On ne sait pas de quel était l'aéroport de départ. Selon un média qui s'appelle Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international impliquant une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. 5 trafiquants de drogue de la région parisienne reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été mis en cause dans ce dossier, ajoute le site. Ce média spécialisé affirme que les enquêtes s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech, au Maroc. MMG me dit que l'avion venait de Marrakech. L'une des villes où il réside. Baptisé Sunset Village Private Residence, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe avec terrain de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims. Alors, Sugar me dit qu'il venait peut-être de Dubaï. On va vérifier toutes ces infos. Parce que... Ce projet devait permettre au rappeur, né à Kinshasa, et arrivé en France à 2 ans avec sa famille qui a fui le régime à l'époque, d'accélérer dans les affaires via l'immobilier de luxe. Côté artistique, rien ne semblait jusqu'ici pouvoir enrayer le succès de l'ancien membre de Section d'Assaut, Maître Gims, nom qu'il avait raccourci en Gims il y a 7 ans. Avec ses lunettes noires et ses tubes sapés comme jamais Bella ou Spider, Gims caracole depuis une dizaine d'années en haut des classements. Bon, le Figaro nous rappelle un peu, ou rappelle à ses lecteurs un petit peu qui est Gims. J'ai envie d'aller voir cet article du Monde. Incroyable quand même. T'es fou quand même, enfin, comme news quand même. Là, c'est écrit avec l'AFP. Regardez, même chose, le Monde avec l'AFP, vous voyez ? Donc là, en gros, il y a une dépêche Agence France Presse et après, les médias vont reprendre cette dépêche, mais en la citant, justement, pour bien indiquer d'où vient l'information. Ça, c'est important. D'ailleurs, on retrouve quasiment le même article. Hein. C'est vraiment la dépêche AFP, quoi. Voilà, on retrouve les mêmes infos. Est-ce que le Parisien nous sort d'autres infos ? C'est pas impossible. Non, c'est la même chose.
C'est la halle, ça ?
Chut, on bosse là. Non, c'est la même chose. Ok, ok. On n'aura pas plus d'infos, Camille a raison. En fait, l'info est très brute. Hein. Elle est tombée comme ça tout à l'heure, je dirais en fin de journée, début de soirée. Voilà, et je pense, tu as raison, que pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Et les articles sont très très courts, quoi. Incroyable. Je suis un peu têtu. Je regarde si un média n'a pas bossé un peu. Non, 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 non. Incroyable. C'est de l'info qui vient de sortir sans éléments, juste là pour faire du clic en gros. Non, okay, non. Alors c'est de l'info brute, oui. Mais pour faire du clic, non. Salut Poireau Bleu. Tu pourrais lâcher ton sub. Espèce de crevard. avec ton pseudo claqué au sol là. je fais un petit plaisir, désolé. Non, une info brute, oui, mais putaclic, non. C'est-à-dire, c'est comme une info étonnante, quoi. C'est une info. Enfin, qu'un artiste aussi important que Gims se retrouve là, sans doute en cellule, en détention et interrogé par des policiers et des magistrats. Enfin, c'est quand même une info gigantesque, en fait. C'est pas ça, une info putaclic. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est une garde à vue qui va se terminer ? Est-ce qu'il va retrouver la liberté ? Tu ne gardes pas comme ça quelqu'un en détention. Il faut des raisons, il faut un cadre juridique, quoi. Salut Doucette. Bah oui, il faut qu'il y ait des éléments en charge, bien sûr. Est-ce qu'il a encore ses lunettes de soleil ? J'ai pas l'info. Comment ça, les Energy Awards dans la tourmente ? Vous êtes con. Hein. Excusez-moi, il a fait quoi de grave, Gims ? Ben, pour l'instant, c'est pas bien. Hein. Ça parle de soupçons. De soupçons de blanchiment en bonne organisée. Alors, quand on dit blanchiment, blanchiment d'argent produit par des activités illicites, bien sûr, et on pense tout de suite au trafic de drogue. De soupçons, hein, bien sûr, MG. Oh, dommage, il était drôle, poireau bleu. Là. Laisse-le nous un petit peu, original Pimousse. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit shiny dans le chat. Allez, remets-nous-le un petit peu. Petit poireau bleu, là. Merci beaucoup. Tu régales. Un peu de content, parce que les infos sont quand même un peu dures, donc c'est bien quand il y a un petit peu de divertissement, quand même. Joli. Agaldian. Il a peut-être blanchi de l'argent, mais au moins, personne ne l'a fait chanter. Joli. Magnifique. Pas mieux. Vous êtes bête, hein. Ça va, c'est de tard. C'est le soir, c'est tard, on a le droit de rire un petit peu. Ainsi, si au vu des infos catastrophiques qu'on se prend sur le nez tous les jours, on peut pas un peu rigoler, hein, on va plus en finir. D'ailleurs, il y a notre ami Poireau Bleu qui est venu nous faire rire un petit peu. Là. Bon, on va voir Monsieur Bolloré. Façon de parler, hein. Merci mon poireau bleu. Et Doudou nous dit « Salut Sam, j'ai fait ma première game de Valo hier. Comme tout bon débutant, j'ai réussi à flasher toute ma team. » Ah, tu régales, tu régales. Tu régales. Allez, on va voir Monsieur Bolloré. Façon de parler, on n'a pas du tout envie d'aller le voir en vrai. Voilà. Et je vous remets, je reprends ma tablette du coup. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps, que ça va foutre, de react l'audition de Monsieur Bolloré, qui sans doute est un expert en matière d'audiovisuel public, puisqu'il a été convoqué par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public. Alors celle-là, je ne l'attendais pas. Ouais. Mais bon, c'est sûrement très intéressant. On va aller voir un article de Libération sur le sujet. Je ne savais pas qu'il maîtrisait ce sujet et qu'il avait des choses intéressantes à dire. Je vous ouvre ma petite tablette. Et voilà, ça donne ça. Oh, mais j'ai tout cassé, moi ! Bougez pas, je vous refais la scène. Elle me plaît pas celle-là, je vais la supprimer. Allez, une petite scène Black Magic qui va bien. Peut-être que le périph a chauffé un peu. Et voilà, c'est reparti. Je vous fais ça bien. Alors, Poireau Bleu, notre ami le roi du content, là, nous explique que Bolloré était très informatif, contrairement à vous. Alors, avant de dire du bien de ton ami Bolloré, apprends à l'écrire. Bolloré, c'est avec deux L. Hop, ça vient. Tiens, je te le mets en gros, ton poteau, là. Voilà, c'est tout beau. Alors, qu'est-ce que M. Bolloré vient faire dans une commission à l'Assemblée sur le duel public ? Première question. Lisons. À la commission d'enquête sur le duel public, la comédie de Vincent Bolloré. L'article de Libération de ce mercredi 25 mars. Devant les députés, le milliardaire a fait mine d'épargner en partie le service public et s'est posé en défenseur de l'empathie et du pardon jusqu'au ridicule, estime le journal. Article signé Jean-Baptiste Chabran et Adrien Franck. Mais pourquoi diable, alors moi c'est la première question que je me pose, pourquoi diable auditionner Vincent Bolloré à la commission d'enquête sur le viol public? Parce qu'il est à travers son groupe Vivendi l'un des principaux actionnaires financiers de Banijay, l'une des principales sociétés de production avec laquelle travaille France Télévisions, répondait mardi matin le président de la dite commission. Jérémy Patrier-Létus, qui est un élu Horizon. Il sera intéressant de comprendre ce que Vincent Bolloré pense finalement du viol public.
Ok.
Ça, c'est pour le prétexte, écrit Libération. Bolloré le dira d'ailleurs lui-même au cours de l'audition, ou plutôt de la tribune que lui ont offerte les députés en l'invitant mardi à donner son avis sur un peu tout et n'importe quoi. Maintenant qu'il est là, que pense-t-il du service public de l'audiovisuel, ce capitaine d'industrie, cet industriel de premier plan, comme le présente Jérémy Patrier-Létus? Pas grand-chose, veut-il faire croire, parce que, à part Canal+, qu'il détient, Vincent Bolloré, 73 ans, ne regarde pas trop la télévision.
Okay.
D'ailleurs, Banijay, je n'y connais rien. Je ne sais même pas où est le siège social. Donc c'est intéressant, parce que donc il est invité, parce que en gros, il est actionnaire de Banijay, mais il dit qu'il n'y connaît rien, qu'il ne sait pas où est le siège social du truc, et puis qu'il ne regarde pas la télé.
Ok.
Donc c'est vrai que la pertinence de son invitation est en train de sauter aux yeux. Je pense qu'on n'a rien à reprocher au service public, ça c'est sympa, ni à glorifier. Le problème, c'est les 4 milliards de pertes, les 4 milliards de coûts. C'est beaucoup à un moment où la France est en difficulté, ajoute quand même le milliardaire. Propriétaire de CNews, d'Europe 1 et du JDD, dont l'activité favorite, islamophobie à part, est justement de dénigrer l'audiovisuel public. Cet argent-là, pense-t-il, l'État ferait mieux de le dépenser? Alors, par exemple, comment? En donnant 1 000 euros par mois aux 350 000 agriculteurs qui nous restent en France. Ou en construisant plus de porte-avions. À l'image de cette suggestion absurde, le reste de cette audition n'est que comédie, estime Libé. Vincent Bolloré se plaint de la mauvaise presse qu'on lui fait, ainsi qu'à ses médias, de l'injustice de la confiscation par l'ARCOM de la fréquence de feu sa chaîne C8, dont ce bon gestionnaire oublie de préciser qu'elle a engendré 800 millions d'euros de pertes. Je suis l'ennemi comme un type, le paratonnerre idéal, tout ce que la caste n'aime pas, lance-t-il sans définir clairement les contours de ces personnes qu'il convoque régulièrement pendant ces 2h30, donc cette caste, et qui, si on le comprend bien, tire les ficelles et se gave. Cocasse venant d'un héritier qui loge Villa Montmorency, à Paris 16e, et qui prête à l'occasion son yacht à Nicolas Sarkozy. Mais qui dénonce ceux qui se gavent. Loin du portrait de milliardaire d'extrême droite inflexible qu'on fait de lui, ce démocrate chrétien, dit-il, ne serait en fait qu'un agneau suivant le Christ et son message. L'empathie vis-à-vis des autres, l'écoute et le pardon. Moi, je voudrais remercier les élus de la République qui nous ont permis d'entendre le message du Christ au sein de l'institution républicaine. On n'est jamais loin d'un foutage de gueule intégral, écrit Libé, lorsque l'élu PS Aïda Adizadeh lui reproche le fait que ces médias n'ont aucune empathie et matraquent à longueur de temps les liens supposés entre insécurité, immigration et islam. Bolloré contre-attaque en mode troll. J'accueille évidemment les immigrés. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Nous prions ensemble. Je pense qu'en fait, je pense que je dors, que je rêve, que je ne fais pas cette revue de presse et que je pense que ces mots sont inventés. Alors, si quelqu'un pouvait me réveiller, s'il vous plaît. Bien entraîné, Vincent Bolloré, trahissant ses séances de média training à l'occasion d'une réponse à Nadège Abomangoli, la députée insoumise le questionne sur un soupçon de parjure qu'il aurait commis lors d'une précédente audition à l'Assemblée en 2024, le milliardaire avait alors juré n'être jamais intervenu dans les contenus de ses chaînes. Sauf que Philippe de Villiers lui avait vendu la mèche dans son livre Populicide quelques mois plus tard, racontant comment le patron de Canal+ était venu le chercher pour lui donner une émission sur CNews. d'encore en troll breton que Bolloré cherche à re-raconter l'histoire ce mardi, racontant une visite un peu contrainte au Puy du Fou. Et là, c'est incroyable, mieux que Walt Disney, qui se finit par un conseil d'amis désintéressé à Villiers, tu devrais venir raconter des émissions d'histoire à la télé. Une fois rentré à Paris, le voilà incitant Maxime Sada, le patron de Canal+, à se rendre au Puy du Fou. C'est pas ce qu'on appelle faire une émission, je lui ai pas fait signer un contrat, conclut-il. Sur le cas Jean-Marc Morandini, Bolloré en revient à nouveau à sa foi catholique, invoquant la miséricorde envers l'animateur condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. S'il déclare d'abord réprouver tous les faits délictuels commis par le présentateur, il se veut magnanime. La justice est passée, elle a dit 2 ans de prison avec sursis, après il y a une deuxième vertu qui s'impose, c'est le pardon. Justice est passée, maintenant miséricorde doit passer. Je ne ferai jamais partie de ceux qui hurlent avec les loups. C'est intéressant cette petite messe qui a eu lieu à l'Assemblée. En face, le président Jérémy Patrilétus n'est que déférence et précaution. Écrit Libé, le rapporteur Charles Alloncle, d'ordinaire inquisiteur, se montre lui particulièrement tendre, tendant perche sur perche à son interlocuteur qui n'a souvent même pas la gourmandise de les saisir. Vincent Bolloré a tout de même ce petit écart léger mais révélateur. Nos médias disent la vérité, en tout cas disent des choses différentes des autres. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de regarder cette audition et de la réacte avec vous. Je ne sais pas si j'en ai le temps. Voilà. Je sais que les auditions ont repris. Peut-être qu'il y a d'autres auditions qui nous feront envie. Mais peut-être que samedi, entre quelques salles de questions pour un champion, j'aurai le temps de faire un react. Et on verra, on verra. Vous me direz quelle a été l'audition de ces derniers jours qui a été la plus intéressante. Voilà. Je vous lis un petit peu sur Bolloré. C'est le main event, il faut l'avoir, Samuel. Vraiment, sérieux? Ça dure pas trop longtemps. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est... aujourd'hui, le rapporteur de la commission, M. Charles Alloncle, est une star pour les médias Bolloré. Charles Alloncle est une star dans 2 endroits précis aujourd'hui en France. Sur X, l'ancien Twitter, le réseau du Chétan, hein, où il est une star pour un certain nombre d'internautes, et uniquement là d'ailleurs, et dans les médias du groupe Bolloré. Il est assez intéressant que soit invité dans cette commission le patron des médias qui porte au pinacle depuis quelques jours, parce qu'il y a quelques semaines personne ne le connaissait, Monsieur Alloncle. Je trouve ça assez intéressant. On peut poser la question de savoir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts dans cette histoire.
Je pose la question, on ne peut pas poser la question. Oh.
Bon, on verra si on a le temps et la patience de regarder cette audition dans les prochains jours. Ouais. Moi, j'ai vu Canardé, c'est intéressant. Allez, dernière ligne droite. Et après, Papy Sam va aller se coucher, parce que demain, on se lève tôt. Voilà. On va finir sur quelque chose de léger, voilà. De temps en temps, j'essaie de vous trouver des choses un peu plus légères. Et là, il y a un film d'animation qui est sorti ce mercredi, voilà. et dont j'ai vu beaucoup d'articles dire énormément de bien. Je vous ai choisi un article, celui de La Croix. C'est un film d'animation qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, L'Odyssée de Céleste. Voilà. Alors là, que dit La Croix, par exemple, de cet article? Charmant et touchant, ça commence bien. Ce film d'animation intergénérationnel est une jolie réflexion sur la force des liens à l'épreuve du temps et de l'espace. Les robots ont décidément la cote dans le cinéma d'animation, loin des froids androïdes mus par une intelligence artificielle machiavélique Des dystopies inquiétantes du cinéma de science-fiction sous des longs métrages animés sont le plus souvent de gentilles boîtes de conserve à l'allure gauche entre bûcherons en fer-blanc du Magicien d'Oz et C-3PO de Star Wars. Après le robot papa-poule Darko, récemment césarisé, qui suppléait des parents accaparés par leur travail. Alors, je suis désolé parce que je fais une petite pause, mais je ne vois pas quel est ce film Arco et j'ai envie de voir parce que ça donne très envie. Je vais voir le trailer d'Arco. Vous connaissez ? Si ? Je l'avais vu ? Sugar m'a dit que je l'avais déjà vu. Alors, ça me dit rien ? Je l'ai vu, ça. J'ai déjà vu cette bande-annonce en revue de presse ? Ça me dit, je suis en train de la regarder, ça me dit rien ? Attends, on va regarder. On va voir.
Sérieusement à m'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Aucune idée.
À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où ?
Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison.
Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas.
Tu crois que ça existe encore, les vœux ? Comme dans les histoires ?
Alors c'est affreux parce que vous, putain c'est fou, regardez l'algorithme de YouTube qui me propose quand même l'audition de Bolloré. Vous m'assurez que j'ai vu cette bande-annonce et je vous crois, mais c'est bien tout le problème, je n'en ai aucun souvenir. Voilà. Et c'est là où je vais avoir besoin de soutien et de vous hein, pour les prochaines années, les prochaines décennies, parce que manifestement c'est en train de partir en sucette. Eh ouais. Ah ouais. Donc vous serez ma béquille, vous serez mon soutien, vous serez ma mémoire. Mais si Samuel, tu l'as vu. Mais si, mais cet article, tu nous l'as lu. Oui, il y a 5 minutes, le même. Mais non, je ne vous ai jamais lu cet article. Si, tu nous as lu cet article il y a 5 minutes. Tu es en train de nous relire le même article. Mais non, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous. Je reviens à l'article du coup. Il faut me remettre de la rame, faites quelque chose, achetez-moi des barrettes. Donc après le robot papa-poule Darko récemment césarisé, qui suppléait des parents accaparés par leur travail, voici donc celui tout aussi maternant de l'Odyssée de Céleste. On en vient à ce film. D'un design enfantin, sobre et rond, donc ça doit être lui, là on va aller voir la bande-annonce, ça a l'air tout mignon. Hein. Le robot assiste la jeune Céleste, alors c'est un prénom que j'aime beaucoup depuis, vous savez, comment ça, ce jeu incroyable, le jeu s'appelait comment, vous savez ? On avait joué à la Zidane, là. C'était pas Céleste, d'ailleurs ? C'est ça, hein, Céleste, hein ?
Ah ouais.
Quel jeu incroyable. Ouais. Magnifique. Donc, le robot assiste la jeune Céleste après la mort de sa mère, astronaute disparue en mission. Elle aide à accomplir son rêve, marcher sur les traces de sa maman en voyageant dans l'espace, souhait exaucé. Mais une fois la jeune femme partie dans les étoiles, sa nounou bionique, désœuvrée, s'occupe à peindre des natures mortes et se réfugie dans les souvenirs partagés avec Céleste qui saturent sa carte mémoire. Des souvenirs qui aident de son côté, la jeune astronaute a puisé en elle-même la force d'affronter d'autres périls sur une planète hostile. Son aventure spatiale est aussi et surtout un voyage intérieur, d'autant plus introspectif qu'il est muet. Adaptation d'un livre jeunesse sans dialogue du réalisateur, le musicien canadien Kid Koala, l'Odyssée de Céleste gagne ainsi en profondeur sur le fond comme sur la forme avec ce choix audacieux, à l'instar de Flo, en 2024, de Gins Zilbalodis, lecture géniale de L'Arche de Noé sans Noé ou de Mon ami robot de Pablo Berger en 2023, fable poétique sur l'amitié entre un chien et un robot à l'épreuve de la distance et du film et du temps. Il va falloir en voir des films, hein. Ce même thème traverse cette œuvre touchante sur le passage des générations et la force des liens, en dépit de la disparition d'un proche, fut-il humain ou non. Tout cela est dit et montré avec les mêmes délicatesses qui habitent le style graphique des images de synthèse, donnant l'illusion de personnages de décor faits main en carton ou en papier. Célébration de la vie et de ses cycles, l'Odyssée de Céleste est enfin une ode au langage musical très présent dans le film qui permet parfois mieux que les mots de comprendre ce qui nous anime. Je ne sais pas si le film est beau, mais l'article donne vraiment envie de le voir. On va aller voir le trailer, la bande-annonce de l'Odyssée de Céleste. Mais j'ai vu d'autres articles aujourd'hui qui disaient autant de bien de ce film, l'Odyssée de Céleste. Je l'ai. Je regarde la durée. 1:11, 1:48. 1:48, c'est mieux. Let's go. Et après, on va se coucher. On finit sur une petite note de douceur comme ça. Waouh! Ben vous savez quoi, je crois à nouveau en l'humanité. Voilà. Ou les robots, je sais pas. Hein, c'est pas mal, hein? C'est tout chou, hein? La DA est magnifique. J'aime. C'est français? Kid Koala. Je sais pas. En tout cas, ça sort mercredi. C'est sorti mercredi. Sorti hier. Aujourd'hui. Enfin, quel jour on est? Non, j'ai jeudi déjà. Voilà. Les amis, merci. Petite revue de presse courte, on a fait combien? Ah oui, 1h47. Alors, oui, courte, mais voilà, on a passé en revue un petit peu d'actualité. Mine de rien, on en a rajouté des infos. On est allé voir les dernières, la mort de Loana, l'arrestation de Gims, on est allé voir les informations. Ça veut dire que vers 1h30, je vais être au lit. Je vais pouvoir dormir un petit peu. Alors, ce qui m'ennuie par contre, c'est que je vais pouvoir dormir un petit peu, mais je vois pas où je vais trouver le temps de lire les journaux. Pour demain soir. Alors, je vais essayer de trouver entre... Ça va être compliqué. La pause du midi, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure pour question pour un champion. C'est un trop court pour lire les articles. Je vais essayer de m'endormir avec les journaux, d'essayer d'en lire un ou deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de vous proposer une revue de presse demain soir. Voilà. Bon, on n'enchaînera pas souvent un stream de gaming avec la revue de presse comme on l'a fait ce soir, parce que c'est un petit peu pas sérieux. Voilà. Mais au pire, tu lis en live revue de presse freestyle. Ah non, j'essaie de vous faire une sélection quand même. Dans le taxi, ouais. Ah, dans le taxi, un petit peu, ouais. Ouais. Petite question, Samuel, comment tu fais pour pas devenir dépressif? J'ai plein de sources de joie et de bonheur autour de moi. Et vous en êtes une. Puis j'ai aussi mon amoureuse, mes enfants, mon frère, ma sœur, mes amis que je vois pas souvent, mais dont je sais qu'ils sont là, les gens avec qui je travaille. Et puis, je suis de nature optimiste, je crois. Puis je trouve que le monde dans lequel on vit est très dur, mais que quand on regarde un petit peu, il y a toujours des raisons d'espérer, toujours des belles choses qui se passent. Tiens, comme la bande-annonce du film qu'on vient de voir. Voilà. Allez, un petit raid. Qui est en live ? Plein de gens qu'on aime bien. Il y a Tommy qui est en live, il y a Kamel, il y a Mel qui est en live. Qu'est-ce qu'il fait le chouchou là ? J'aime bien ça. Attendez, je pense que j'ai trouvé notre destination, les pruneaux là. Il y a l'ami Bailan qui est en live, mais qui fait de la musique. Est-ce que j'ai kiffé la course de billes hier ? J'ai adoré la streameuse bretonne qu'on a raid hier. Trop sympa. Vous vous rappelez de son pseudo ? Parce que je la follow maintenant, mais. Ouais. Il y a Bailan qui est en live, mais qui fait la musique. Je trouve ça bien. Amae, ah ouais, elle était trop sympa. C'est vraiment une bonne découverte, une bonne surprise. Bailan. Musique. Il est en train de faire de la musique. Voilà. Alors maintenant, quand on fait un raid ici, on fait super attention parce que vous savez que le streamer, il est vieux et il est distrait. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Bisous. Il coupe le live. Il coupe la caméra. Il ne peut rien arriver là. Voilà. Vous ne pouvez rien voir. Voilà. Je mets même la scène de fin. Comme ça. Il ne peut rien arriver. On va voir Bailan. Le titre de son stream, c'est « Je fais des sons avec vous » et « Samo ». Voilà. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Bailan. Voilà. On peut entendre. Oui, mais vous ne pouvez rien voir. À demain soir, promis, je vous fais un live. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans. J'essaierai de vous donner toute l'actualité. Merci pour toute cette soirée de stream, pour le stream sur Forza Horizon 5. Là, je me suis régalé. Et puis pour le stream de votre presse qu'il y avait juste derrière. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Bon jeudi, bonne nuit, bonne journée. Et je vous dis à demain soir. Ciao, ciao. Merci encore.